Salut Rebelles Intelligents, je suis avec l'unique, le seul, l'incroyable Michael Ferrari.
Salut,
ça va Michael?
Ouais, ça va très bien et toi?
Bah oui, super.
Ouais, en pleine forme.
Il se trouve que c'est incroyable, mais il y a quand même des gens qui m'ont demandé récemment, mais Olivier, quand est-ce que toi et Michael, vous allez faire un nouveau Tire-toi une bûche?
L'émission la plus aléatoire du monde.
La plus aléatoire du monde, d'ailleurs, comme il n'y en a pas, je me suis dit, putain, mais c'est dingue, moi-même, je ne me rappelais plus qu'on avait fait cette émission. Parce qu'en fait, Tire-toi une bûche, c'est une émission qu'on a lancée en 2012, très exactement. D'ailleurs, c'est très rigolo de voir la vidéo de l'époque. Et en fait, Tire-toi une bûche, ça vient bien sûr d'une expression québécoise qui veut dire prends-toi un siège. Mmh. Et c'était à la base le concept, complètement, voilà, les sujets aléatoires, on parlait de ce qui nous passait par la tête.
Complètement random, on partage des.
Random, non seulement dans les sujets, mais aussi dans le timing.
Dans le timing.
Voilà. Et là, parfait, j'allais dire c'est parfait. Et on parlait de notre actu et d'autres sujets qui nous intéressaient. Et donc, le dernier Tire-toi une bûche, c'était le cinquième, c'était à Miami en 2015.
Ouais, on a vérifié.
Donc, ça fait un peu plus de 3. Bah, c'était même début 2015, donc ça fait quasiment 4 ans en fait. 3 ans et demi, on va dire. Wow. Donc, ça commence à faire pas mal. Alors qu'on pouvait faire 1 à 2 Tire-toi une bûche par an avant, entre 2012 et 2015. Donc, voilà le Tire-toi une bûche numéro 6. Et oui, les gars. C'est alors, parti. Du coup, Michael.
Oui. Alors, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un résumé de ce qui s'est passé en 3 ans.
Parce que 3 ans et demi, c'est un peu long. De toute façon, si vous nous suivez, vous connaissez un petit peu notre actu.
Ouais, voilà, donc c'est pas l'idée. Mais après, l'idée, c'était de partager l'actualité du moment, en fait, ce qui se passe.
Exactement. Et puis les projets, tout ça.
Les projets, voilà, les idées. Moi, ce que je peux partager, c'est on est au mois d'octobre. Donc, moi, je me suis lancé un petit challenge pour le mois d'octobre.
Ouais.
C'est de faire ce qui s'appelle Octobre Sobre. Donc. Pas de consommation d'alcool.
Donc, pas de cocaïne en fait, c'est ça.
Pas de cocaïne.
Pas de cocaïne. Pas de cocaïne. C'est pas trop dur.
Non, c'est difficile de m'en passer. L'idée c'est vraiment de.
Pas d'alcool
dire,
du tout.
Pas d'alcool du tout, ouais. De se dire. Je buvais pas, je bois pas énormément. Mm-hmm. Bon, je pense que c'est tout ce que tous les alcooliques disent ça. Mais...
Juste 2 bouteilles par jour, c'est raisonnable.
L'idée c'est de dire, voilà, plutôt de boire un petit peu par habitude, finalement, c'est de se dire. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête consciemment de boire? Qu'est-ce qui se passe si je décide de plus boire du tout et de voir comment je réagis finalement, pour faire la part des choses entre la part d'habitude et la part de plaisir qu'on peut prendre en buvant un coup de temps en temps. Voilà. Et donc là, on est quasiment à la fin du challenge.
Ouais. Et pour l'instant, ça va. Fais voir un peu ta main, est-ce que ça tremble? Non. Donc tout se passe bien, t'as pas
tout
eu de...
Non, tout se passe super bien. C'est comme tout en fait, comme toute habitude qu'on a. Quand on arrête une habitude, ça peut manquer. Je me rends compte, tu vois, il y a des moments, on a partagé un repas tout à l'heure, tu vois, c'est vrai qu'avec un bout de viande, on a envie de boire un verre.
On a pris un bon steak. Moi, je mange très très peu de viande rouge, mais quand je le fais, j'aime bien me faire plaisir. Alors, quand j'ai pris un petit pinot noir avec, c'était sympa.
Ouais. C'est vrai que là, ça, c'est tentant, mais après, au quotidien, pas plus que ça. Et c'est intéressant de voir, même d'envisager, de se dire, finalement, est-ce que je pouvais ne plus boire d'alcool sans que ça me manque, sans être dans un truc de privation, mais. Se dire pourquoi pas après tout on verra et je pense que ça va être intéressant de voir ce qui se passe à la fin du mois, tu vois, sur quoi je repars. Je sais pas encore là aujourd'hui sur quoi je repartirai, mais est-ce que je vais me remettre à consommer de l'alcool plus ou moins régulièrement, ou est-ce que je me dis je poursuis l'exercice quoi.
Ouais, ok.
Voilà.
Bon, donc c'était la première fois que tu faisais un défi comme ça de ne pas boire d'alcool pendant 30 jours. Ouais, ok.
Ouais.
D'accord. Intéressant. Ouais, j'ai fait ça l'année dernière. D'ailleurs, j'avais échoué le tout dernier jour, juste pour un truc un peu bête de pression sociale, puisque j'avais rencontré un mec qui est un peu un héros pour moi, qui est Aubrey de Grey. C'est un mec avec une barbe gigantesque qui a fait une présentation TED en 2005, qui avait fait des millions de vues sur comment supprimer la vieillesse comme source de mortalité. Et en fait, lui, il adore ça. C'est fou parce qu'il est à fond dans l'extension radicale de longévité, mais il se fout complètement de comment il mange. Donc, tu sais, on s'est vu dans un pub britannique, il a pris une grosse bière, un gros burger. Et je me dis, j'ai envie de me connecter avec ce gars, donc je vais prendre une bière, ce qui était stupide en fait. Et donc, le tout dernier jour de mon défi, j'ai pris une bière alors que j'aurais dû tenir un jour de plus.
Ça, c'est intéressant dans notre consommation, notamment d'alcool, tu vois, quelle est la part sociale là-dedans?
Elle est importante.
Elle est hyper forte. Hein.
Ouais, c'est clair.
Elle est hyper forte et finalement, la facilité. C'est de faire comme tout le monde et finalement là où ça devient un petit enjeu qui peut être amusant, c'est de se dire qu'est-ce qui me fait plaisir, est-ce que j'ai besoin de boire pour justement me sentir connecté ou me sentir profiter de l'événement, tu vois. Donc ça c'est exploration du moment.
Bah oui, exactement. Et là, je suis en plein milieu d'un défi 30 jours sans pain et tout ce qui est assimilé. Donc pâte à pizza et tout ça, donc là il y avait des bons desserts, bah, j'ai pas pu en prendre parce que grosso modo il y avait des biscuits, des tout ce qui est assimilé au pain. Donc voilà, ça c'est rigolo, c'est intéressant de se lancer des challenges comme ça sur la nourriture ou sur d'autres choses. J'essaie toujours de faire plusieurs défis 30 jours par an. Et toi, j'imagine que c'est pareil.
Non, alors moi, j'en fais pas tant que ça, mais là, c'était, je sais pas, octobre, somme, en plus, ça résonne bien. Donc,
et tu t'es réveillé le 30 septembre, tu t'es dit, zut, il faut que je fasse un octobre, somme.
Ouais. Ok. C'est un peu ça.
D'accord. Et donc là, tu viens d'avoir un peu. Bah, alors, c'est vrai que ta femme vient juste d'accoucher. Donc, oui, elle a fait 9 mois sobre, elle, pour le coup.
Ouais, mais elle consomme pas d'alcool. Donc,
c'était pas un challenge pour elle.
Non, c'est pas un challenge pour elle. Et puis, c'est pas elle qui va m'inciter. Vu qu'elle consomme pas d'alcool, voilà. Et oui, non mais effectivement, si on rebondit sur les news, big news pour moi, deuxième enfant. Voilà.
Félicitations.
Merci.
Depuis 15 jours là.
Depuis 15 jours, donc ouais. Il est tout petit, voilà. Grande nouvelle, ça a agrandi la famille, donc c'est un super événement aussi dont je profite.
J'ai fait un gros lancement. Voilà. C'est surtout ta femme en fait.
C'est surtout ma femme, oui, parce que dans ces cas-là, c'est vrai qu'en tant qu'homme, bon, ouais. On aide.
C'est moins physique pour
comme
nous,
on
quoi.
Peut, mais ouais. Ouais, on est un peu moins impliqué physiquement. Quoi,
ouais, voilà. C'est clair.
Donc voilà, ouais, c'est une grande nouvelle aussi. Je vais pas dire que ça explique les 3 ans d'absence de Tire-toi une bûche, mais.
Mais il y a un peu de ça.
Il y a un peu de ça. C'était le premier. C'était le premier enfant peut-être.
Bah oui, et donc tu disais, donc là tu viens de compléter ton empire immobilier, t'en es à combien d'appartements à peu près hein?
J'en suis à 40.
40 appartements.
40 appartements.
Là, aujourd'hui.
Ouais.
Avec sachant un cash flow positif qui est quand même très sympa.
Ouais, en cash flow total, je suis aux alentours de 6 000 euros par mois.
Donc ça c'est une fois les prêts remboursés, les impôts payés, les travaux payés, ouais. C'est vraiment le net. Ouais. Donc déjà, imaginez, alors que là, tu n'en as aucun dont le prêt est remboursé en fait. Hein.
Non, bah non, parce que l'essentiel quand même, je les ai acquis en 4 ans, tu vois.
Ouais.
Le premier, il a 7 ans, c'était un appart.
Ouais.
Après, j'ai vraiment démarré en 2014 et j'ai vraiment accéléré il y a 2 ans.
D'accord.
Donc, pour donner un peu la progression.
Oui, donc c'est surtout dans 20 ans finalement que la plupart des prêts seront remboursés.
Et oui, sachant que… Enfin, moi, dans ma philosophie, j'ai pas besoin de cet argent. C'est pas ma source de revenus immobilier.
Exactement.
Ouais, je vis pas là-dessus. Donc,
c'est un hobby, quoi.
C'est un hobby, ouais. C'est ce que je dis. Hein, c'est une activité secondaire. Et l'idée pour moi, c'était de créer, voilà, du patrimoine, créer de la sécurité, et donc de lancer tout ça maintenant, parce qu'il vaut mieux le faire maintenant, parce que le temps est ton allié, quoi. Le temps est ton allié. Donc, plus je le fais tôt, plus ça sera remboursé tôt, plus ça sera disponible tôt. Donc, voilà, c'est lancé. Et je suis vraiment content de ça, c'était un petit challenge, j'ai quasiment levé, tu vois, quasiment 2 millions d'euros de dettes.
Donc du coup, tu as à peu près 2 millions d'euros de patrimoine, enfin,
ouais, c'est
en théorie, parce que pour l'instant, ça appartient surtout à la banque. Quoi, mais...
Oui, c'est ça,
ouais.
En assez peu de temps au final,
ouais.
Donc voilà.
Ouais, cool.
Ouais, donc ça, c'est un milestone, tu vois, l'étape atteinte, 40 biens immobiliers. Alors 40 biens, c'est vraiment 40 apparts, parce que j'ai... Il y a des petites guéguerres dans l'immobilier,
ouais.
Et donc j'ai suivi l'histoire d'un gars qui disait qu'il avait, alors je sais plus combien il disait, 20 biens ou je sais pas quoi. Et en fait, il avait genre 3 apparts et avec à chaque fois 4 colocataires. Donc il comptait.
Ouais, c'est pas la même chose. Donc il avait 20 locataires, c'est pas la même chose, voilà, que 20 biens. Ouais.
Enfin, bref, c'est pas pour dire, mais moi c'est 40 appartements. Quoi.
C'est des vrais appartements.
Des vrais appartements, voilà.
Ouais, c'est déjà un beau patrimoine. Moi j'en suis à 11, hein, 5 en France, 5 au Québec, 1 aux États-Unis. Et j'en suis déjà très content, dans le sens où je n'ai pas un peu envie de m'emmerder plus avec ça, parce que moi, contrairement à toi, je déteste l'immobilier.
Est-ce que tu vas continuer du coup à développer
là je vais vraiment focaliser sur les trackers, parce que finalement, quand je regarde l'historique depuis que j'ai commencé à investir, donc ça fait quoi, j'investis dans les trackers depuis 2008-2009 à peu près, et dans l'immobilier depuis 2013, même avant 2010, puisque j'avais acheté ma résidence principale que j'ai revendue après. Finalement, quand je compare entre les deux, celui qui amène le plus de résultats par rapport au nombre d'emmerdes, clairement, il n'y a pas photo, c'est les trackers qui amènent… Il y a zéro emmerde avec les trackers, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, jamais il y a quelqu'un qui va t'appeler pour te dire qu'il y a un problème de tuyauterie, ou tu vas devoir valider des devis d'artisans et tout ça. Et voilà, donc c'est sûr que le gros problème des trackers, c'est que tu n'as pas l'effet de levier du prêt,
ouais.
Et des remboursements, enfin des locataires qui te payent ton prêt finalement. Mais par contre, voilà, tu sais que sur la moyenne du temps, sur le long terme, tu vas faire du 8% à peu près, ce qui est quand même énorme. et t'as juste zéro. Oh merde, ça c'est incroyable quoi.
Ah non, mais ça c'est clair, hein. c'est une évidence. C'est encore même très méconnu encore, hein, l'histoire des trackers en France.
Ouais.
Et ouais, moi je développe pas mal aussi la partie SCPI.
Ouais.
Qui a un,
oui, bah, j'ai
qui
commencé à investir là-dedans. Ah non, enfin dans les REITS, c'est ça, hein.
Non, c'est autre chose ça.
Ah ok. Parce que les REITS, c'est le pire papier, c'est quand tu investis dans des trackers qui suivent des boîtes qui sont que dans l'immobilier. Ça permet d'avoir l'immobilier mais sous forme papier.
Exactement.
Donc sans les emmerdes.
C'est de l'immobilier coté en bourse.
Ouais.
On peut résumer ça comme ça.
Ouais.
Les SCPI, c'est de l'immobilier non coté.
Okay.
Il n'y a pas de place de marché.
D'accord.
Et l'avantage de cette forme d'immobilier, donc tu es toujours sur du 100% passif.
Ouais.
Tu es toujours sur la boîte de gestion qui s'occupe de. Et tu es souvent sur les meilleurs actifs en France, les meilleurs emplacements. T'as genre par exemple le centre commercial du Louvre ou. Je sais pas. Les quatre temps à la Défense ou le centre commercial de la Part-Dieu ou le palais des Expos à Paris, tout ça, c'est des SCPI qui possèdent. Ou même des super logements, des super emplacements, et, tu sais, des beaux immeubles. Quoi. Et en plus, tu as l'effet de levier du crédit.
Mmh.
Donc moi, j'ai fait une première tranche où j'ai emprunté 30 000 euros sans apport et j'ai acheté 30 000 euros de parts de SCPI.
D'accord, donc tu as réussi à trouver quand même un financement pour ça.
Ouais. Et je vais en faire une seconde tranche.
Mais ça te rapporte suffisamment par an pour pouvoir rembourser ton prêt ?
Ouais, c'était à quasi autofinancement.
Waouh, c'est génial. Donc je ne savais pas que tu peux autofinancer la pierre papier.
Ouais.
Incroyable. Ouais. Mais ça, ouais. Tu as eu un prêt parce que tu es résident français, que tu as un bon dossier et tout ça.
Oui.
Voilà. Parce que là, on va en parler, tu vas partir à Lisbonne dans bientôt, en janvier.
Ça
là.
Fait partie des annonces.
Et tout de suite, tu ne vas pas avoir les mêmes conditions si tu veux faire des prêts en France
Ouais, alors je ne sais pas. Ça, je verrai parce que comme moi, j'ai ma holding qui est en France, il y a une certaine antériorité. Mm-hmm. Je pense que je pourrais continuer à emprunter, à investir.
Ok.
Ouais. Je vais voir. Ça va être une découverte. Je ne peux pas anticiper là-dessus. Parce que finalement, on a assez peu de recul là-dessus, hein, sur ce genre de situation.
Ouais. Enfin,
moi, je connais pas de gens qui font ça. Soit les gens partent et ils n'investissent plus dans l'immobilier parce qu'ils n'ont plus rien en France et donc ils sont un peu coincés.
Ouais.
Ce qui est le cas de pas mal d'entrepreneurs, quoi. Une fois qu'ils sont partis, plus d'immobilier en France.
Parce que, en tout cas, en général, vous ne pouvez plus avoir des prêts sans apport. Il faut faire des apports parfois significatifs de 30, 40, voire même 50%, parfois, on m'a dit. Donc, ce qui tout de suite tue beaucoup l'attractivité de ce levier, quoi.
Donc je vais voir ça. Ça, j'ai bon espoir que ça reste quelque chose de très 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 faisable.
Ok.
Ouais, je vais le découvrir, je vais le tester de toute façon. Après, dans ma stratégie, pour moi, le patrimoine immobilier est développé.
Complètement.
Je vais en faire peut-être encore un peu, mais.
De toute façon, là aujourd'hui, je veux dire, si tu arrêtes de bosser aujourd'hui, tu pourrais être tranquille jusqu'à la fin de tes jours là.
Oh bah oui, là, oui.
Peut-être t'as plus besoin. Bah finalement, c'est un peu comme moi, même si bon, je suis pas du tout dans la même situation de cash flow positif que toi par rapport à mes immeubles, puisque de toute façon, enfin à mes appartements, vu que j'ai quasiment tout délégué, donc j'ai pas autant de renta. Par contre, je me constitue un capital en opération blanche, même un peu plus que ça, puisque j'ai quand même un appart à Miami que j'ai acheté cash, donc qui rapporte tous les mois 800 $. Enfin, je pourrais arrêter de travailler avec mes autres trucs et tout ça, et au final, c'est pas que ça, quoi.
Non, mais c'est ça.
Parce que si tu passes 2 mois à la plage sur ton île tropicale, au bout d'un moment, tu te tires une balle, quoi.
Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça fait partie des fois des remarques que je vois sous mes vidéos ou ailleurs, tu vois. Dire mais pourquoi si t'as vraiment eu ce que ou si t'as vraiment ce que t'as, pourquoi tu continues à faire ce que tu fais?
Ouais.
Mais c'est parce que on aime bien ce qu'on fait.
Déjà, on déteste le vide, donc il faut combler le vide et il faut trouver des trucs qui nous remplissent, qui nous permettent de nous réaliser, de contribuer aussi, quoi. Donc,
c'est une forme de contribution. Il n'y a personne qui reste sans rien faire, ça n'existe pas. Quoi, tu vois,
Non, c'est clair.
Ouais.
Bah, la plupart des milliardaires, je veux dire Elon Musk, il aurait très bien pu profiter de ce qu'il avait quand il a vendu PayPal parce que je crois qu'il a personnellement empoché quelque chose comme 350 millions de dollars.
Ouais.
Il aurait pu passer le reste de sa vie à être un jet-setter et aller dans les meilleurs endroits du monde. Et à la place, il s'est dit, on va sauver l'humanité. À la place, c'est plus fun, tu vois.
C'est plus fun.
Et c'est plus fun, c'est quand même plus satisfaisant pour l'esprit. Ça permet de s'améliorer, d'accomplir un nouveau challenge. Et puis voilà, je veux dire, coloniser Mars et puis disrupter l'industrie automobile, ça, c'est des trucs quand même qui sont challengeants pour n'importe qui, même les plus grands génies. Hein.
C'est clair. Donc voilà, ça fait partie. Je pense qu'on a plein comme ça, nous, de questions, on se demande pourquoi les gens font ça. Quand on n'est pas dans la situation, on a du mal à avoir de l'empathie et à se dire finalement, si j'étais à sa place, en fait, ça me paraît complètement logique. Si j'ai eu une certaine réussite, ça paraît complètement logique de continuer à faire des choses, la même chose ou autre chose, mais on ne va pas rester sans rien faire. Donc, c'est sûr, ça n'a aucun sens, quoi.
Ouais,
et surtout même dans le mindset, le style de personne qui réussit, c'est pas le style de personne qui va rester sans rien faire. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre.
Donc
voilà, tout ça est hyper logique quand on est de l'autre côté, quoi.
Non, c'est vrai, ouais. Donc, c'est clair. Donc ouais, donc niveau actu, donc là ouais, niveau immobilier pareil, toi tu penses pas continuer pour l'instant
Non, bah de serait-ce que parce que voilà, je vais pas mal réorganiser les choses côté perso, donc je vais lever le pied sur l'immobilier.
Toi ton truc c'était ta limite peut-être c'est 40 pour l'instant. Moi à 11 je suis déjà plus
moi,
que.
Moi je voulais atteindre une masse critique pour pouvoir après déléguer la gestion quotidienne.
Ce qui est le cas aujourd'hui.
Ouais, parce que avec 3-4 appartements ou même avec 10 appartements, tu te rends compte qu'il n'y a pas de quoi occuper une personne.
À temps complet.
Ouais, à temps complet, même à mi-temps quoi.
Tandis que 40, tu peux prendre une personne à temps complet.
Ouais, même à mi-temps. Il n'y a pas besoin de temps que ça. Mais à mi-temps pour gérer le quotidien, ouais, c'est bien.
D'accord. Ouais,
donc ça c'est le but. Voilà. Okay. Et là j'ai atteint cet objectif. Et là ça tourne, j'ai délégué l'essentiel, sachant que on continue, c'est ma femme qui s'en occupe, mais à gérer la partie publier une annonce et sélectionner un locataire.
D'accord.
Ça c'est la seule partie qu'elle va conserver et tout le reste on délègue.
Ok.
Toute la partie opérationnelle.
Ok, donc là, mais là tu passes combien d'heures par semaine à peu près sur la gestion de tes apparts?
Alors moi je fais pas la gestion, c'est ma femme qui l'a fait.
Sur le travail on va dire.
En ce moment je dois passer une demi-journée à une journée par semaine. Parce que j'ai 5 chantiers en même temps.
Quand même c'est énorme, ouais.
Mais j'ai 5 chantiers en même temps en ce moment.
Donc là sur les 40, tous qui ne sont pas loués, il y en a qui sont en travaux là.
Ouais. J'ai une grande colocation qui est en travaux. J'ai un appartement qui est bientôt fini et j'ai deux appartements qui sont en création. Ouais. Enfin, je dis 5, en fait j'ai un appartement qui a été livré il y a quelques jours. Donc j'en ai 4 en fait en cours. Donc c'est ça qui me prend du temps en fait. Mmh. Faire des plans de cuisine, faire des plans de machin. Je passe une demi-heure sur le chantier tous les jours, tu vois, pour voir si les artisans ont des questions, discuter avec eux, voilà. Donc ça me prend plus de temps que d'habitude.
Ok.
Mais c'est parce que j'ai envie aussi que le chantier soit bien mené comme j'ai envie. Je profite que je suis à côté pour pouvoir faire ça.
Ok. Bon. Donc dans deux mois, ouais, tu pars à Lisbonne.
Ouais.
Pourquoi ce choix ?
L'idée de vouloir être au bord de la mer, dans un cadre différent, de vouloir aussi être entouré de gens qui ont une mentalité différente. Et voilà, ça a été un arbitrage entre aussi qu'est-ce qui convient à une famille. Parce que j'avais pas mal regardé par exemple Malte.
Ouais.
Mais Malte, personnellement, je trouve que c'est pas adapté à une famille.
Ouais.
C'est bien quand tu es célibataire en couple.
Moi j'y suis allé, ça m'a convaincu de pas y aller.
Ouais, non, mais voilà, après.
C'est petit, c'est brûlé, il n'y a pas grand chose à faire.
Voilà, chacun trouve son intérêt.
C'est un peu excentré.
Non, mais ça a plein d'attraits, je trouve, mais voilà, pas quand tu as une famille, moi je trouve que ça vaut pas la peine. Rester en Europe, parce que moi j'aime l'esprit européen, j'aime le style de vie à l'européenne. Et encore une fois, pareil, pour la vie de famille, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est trouver le meilleur compromis possible. En termes de distance par rapport à la France et qualité de vie, de coût de la vie, de confort, voilà. Donc, c'est apparu comme une évidence de faire ce choix-là.
Ok, ouais, bon, super.
Voilà.
Ouais, donc moi, donc, je sais pas, du côté de mon actu, donc voilà, moi ouais. Je vais me concentrer sur les trackers et tout, c'est super. Surtout, le gros truc là qui arrive, c'est que je vais vraiment développer ma présence sur le marché anglophone.
D'accord.
Parce que donc, j'ai signé un contrat avec une grosse maison d'édition américaine qui s'appelle Hay House, qui est une des plus grosses dans le domaine du développement personnel aux États-Unis. Donc, c'est génial parce que voilà, le CEO m'a dit, on va publier, quand ton livre sera publié, il sera publié. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Inde. Donc, truc de malade. Alors, bien sûr, c'est pas parce que c'est publié que ça va se vendre, hein, on le sait bien.
C'est ton livre.
Oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir tes études.
Celui-ci.
Ouais.
Que tu vas publier.
Okay. Oui, alors en sachant qu'il faut que je l'adapte de deux manières, parce que le livre fait 220 000 mots et Hay House, ils n'ont jamais publié de livre de plus de 100 000 mots en fait. Donc, pour eux, c'est déjà un gap énorme. Et en fait, j'ai été voir leur bureau londonien, tu sais. Ils m'ont dit, écoutez, nous on a négocié quoi. À la fin, ils m'ont dit, nous on peut accepter 150 000 mots, mais pas plus quoi, parce que voilà.
D'accord.
Alors, il y a quand même quelque chose qui m'aide. Il y a deux choses qui m'aident. C'est que là, je vais travailler sur la deuxième édition du livre en français. D'ailleurs, aussi une nouvelle annonce exclusive mondiale. C'est un de mes objectifs de réduire la taille. Parce que clairement, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a une version audio du livre qui a été faite par Audible. Et ça me permet d'écouter quand je prends ma douche. Mmh. J'écoute mon propre livre et je redécouvre mon livre, en fait. C'est ça qui est rigolo. Et il y a tellement de moments où je me dis, mais zut, tu viens juste de le dire juste avant. Pourquoi tu répètes la même chose, tu vois? Je vois des tas de répétitions que je n'avais pas vues quand je l'ai écrit la première fois. Et donc ça, c'est déjà un truc, je vais réduire ça. Puis, c'est une erreur classique d'auteur de premier bouquin de vouloir, d'en mettre trop en fait.
Tu veux tout mettre, mais c'est
parce
normal.
Parce que t'as peur de ne pas donner assez de valeur, t'as peur que ce ne soit pas assez, du coup tu t'en mets trop. Et c'est ce que j'ai fait avec Tout le monde a pas la chance de rater ses études. J'ai vraiment tout donné pour essayer de créer mon chef-d'œuvre. Et je pense que je suis arrivé à faire un beau truc, mais il est loin d'être parfait, donc je vais l'améliorer par la deuxième version. Donc déjà, deuxième édition française va être plus courte. Ensuite, la deuxième chose qui m'aide, c'est que l'anglais est naturellement plus concis.
Quand tu passes en anglais, tu réduis naturellement.
Typiquement, tu vas réduire de 15% le nombre de mots, juste sans rien faire en passant du français à l'anglais. Parfois de 20%, ça dépend comment ça a été écrit, comment c'est traduit. Donc déjà, ces deux facteurs combinés font que l'objectif d'atteindre 150 000 mots me paraît raisonnable en fait.
D'accord.
Ça me paraît faisable. Je pense que je vais essayer d'atteindre 200 000 mots pour la version française. Après, si tu enlèves 10%, ça fait 180. Si tu enlèves 20, ça fait 160. Donc tu vois, il y a moyen de…
Et tu vas adapter le contenu lui-même aussi ?
Oui, parce que je l'ai écrit de la manière la plus universelle possible, mais il y a quand même des parties qui sont vraiment focalisées sur la francophonie, la France en particulier, mais la francophonie de manière générale. Je vais changer les exemples. Il y a aussi tout un passage sur l'apprentissage des langues où j'insiste sur l'anglais, évidemment. Je ne vais pas le faire pour la version anglaise, mais j'ai quand même insisté sur l'importance d'apprendre des langues en focalisant peut-être un peu plus sur l'espagnol, parce que typiquement, c'est la langue que les Américains apprennent quand ils en apprennent, ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis leur donner des hacks et tout ça.
Okay.
Donc oui, il y aurait une petite partie d'adaptation. J'estime qu'il y a peut-être 10 à 15% du livre que je devrais remanier pour l'adapter à un marché avant tout américain, mais de toute façon anglophone de manière générale. Et voilà. Donc,
t'en es à combien de ventes du coup en France ?
Donc là, on est à plus de 50 000 exemplaires, toutes éditions confondues, hein, c'est-à-dire papier, numérique et audio.
Super.
Donc c'est super. En 18 mois, on était déjà à 50 000 exemplaires, donc c'est un très beau score. Hein. Je veux dire, en France, on considère qu'un livre est best-seller à partir de 10 000 exemplaires.
Ouais.
Donc 50 000, surtout en 18 mois, c'est vraiment beau. Et on sait que c'est un long seller, c'est-à-dire que c'est vraiment le type de livre qui continue à vendre sur le long terme. Là, hier, je suis allé voir ma maison d'édition, les éditions Le Duc. Ils ont un tableau qu'ils impriment toutes les semaines des meilleures ventes de bouquins. Mon livre était en 10e position sur un catalogue de 750 livres qu'ils ont, des ventes de la semaine. Donc tu vois, alors que ça fait 2 ans qu'il a été publié. Donc aujourd'hui, je suis dans le top 10 des ventes de ma maison d'édition sur un catalogue de 550. Donc on sait que sur le long terme, il va continuer à bien se vendre. De toute façon, clairement, à terme, on va atteindre les 100 000 exemplaires. Après, quand, ça reste à voir. Là, au rythme actuel, je crois qu'on l'atteindrait dans 4 ans, un truc comme ça. Parce que forcément, vous avez un énorme pic de vente au début, puis après, ça se tasse un petit peu quand même. Hein. Mais je pense que le fait d'écrire une deuxième édition, donc l'objectif, c'est de publier ça en septembre 2019. Ça va permettre d'atteindre cet objectif plus rapidement.
D'accord.
D'avoir un nouveau pic et tout ça. Puis je vais vraiment essayer de l'améliorer. Je vais en profiter, je vais envoyer un sondage. Je dois avoir une liste de peut-être 6000 de mes lecteurs, hein, de gens qui sont inscrits via les liens de mon livre, ça c'est super. Et je vais leur demander qu'est-ce que je dois améliorer pour la prochaine édition. Tu vois, ça c'est un atout énorme par rapport à l'auteur lambda qui se crée pas une communauté de ses lecteurs.
Tu peux pas discuter avec ses lecteurs.
Il n'a pas de feedback et tout ça. Là, je vais pouvoir leur dire qu'est-ce que je devrais enlever déjà, qu'est-ce que je devrais ajouter, qu'est-ce que je devrais modifier. Rien que ça va me donner des feedbacks énormes. Il faut que je m'occupe d'envoyer le sondage rapidement. Donc
septembre 2019 alors.
Pour la deuxième édition française. Et l'objectif, c'est aussi de publier la version anglaise deuxième semestre 2019. Ça va dépendre de quand je rends le manuscrit. Ça sera peut-être en 2020, on verra. Et d'ici là, il faut que j'ai une plateforme en anglais qui soit pas trop nulle, parce que c'est important que je puisse promouvoir le bouquin quand il sort en langue anglaise. Donc là, j'ai lancé une chaîne YouTube en anglais il y a quelques mois. J'ai relancé la traduction de mon blog des livres pour changer de vie, donc Books That Can Change Your Life. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trafic sur les deux. Hein. Je ne me suis pas du tout occupé, j'ai tout délégué à mon équipe. Donc j'ai peut-être, c'est ridicule, j'ai 600 visites par mois sur mon blog en anglais. Quoi. Alors que aujourd'hui, j'ai 90 000 sur la version française, donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Et la chaîne YouTube, il faudrait que je regarde, mais ça fait quelques milliers de vues par mois. Donc, tu vois, je suis retourné en 2007, en fait, en 2008, quand je démarrais.
Retour à la case départ.
Ouais, c'est marrant. Je vais me prendre au moins une bonne semaine pour mettre en place des stratégies, prendre des prestataires, parce que aujourd'hui, j'ai des ressources, une expérience que je n'avais pas à l'époque, pour accélérer tout ça.
Ouais, l'idée, c'est de pouvoir faire ça au lieu de ce que tu as mis quelques années à faire en français, c'est de dire, tu peux compresser ce temps-là avec ton expérience, les ressources, et puis accélérer énormément le développement de ta chaîne, ta présence anglaise.
Ouais, exactement.
Ok, c'est un bon projet tout ça.
C'est intéressant, c'est sympa. Puis à côté de ça, j'ai plein de projets pour… Je sais pas si… je t'ai peut-être pas dit, mais je suis devenu directeur de collection chez Le Duc.
Ah non, je savais pas, directeur de collection.
Donc mon éditeur, les éditions Le Duc, il y a Barbara qui est la personne avec qui j'ai le plus de contact dans cette maison, qui est venue me voir et qui a dit écoute, j'ai une idée, qu'est-ce que tu dirais de faire la collection Olivier Roland. Tu vois, je me suis dit pas bête, tu vois, c'est pas bête de faire ça, c'est un challenge intéressant. Et je me suis dit, surtout, tu vois, ça commençait à infuser dans mon esprit quand elle m'a dit ça. Et je me suis dit, mais c'est, ça serait génial parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai comme projet de faire une formation sur comment écrire un best-seller, tu vois. Mm-hmm. Parce que je veux dire, le succès de Tout le monde a pas eu la chance de rater ses études, c'est clairement pas du hasard. J'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. Il y a des tas de stratégies qu'on n'a jamais vues en France que j'ai utilisées, qui sont répétables dans tous les secteurs. Et donc, j'ai ce projet-là. Je pourrais lier ça, ouais, avec en disant, voilà, je ne peux pas vous promettre qu'on va publier votre livre, mais en tout cas, si vous suivez la formation et que vous arrivez jusqu'au bout, vous pouvez m'envoyer votre projet, je vais l'examiner. Ça, c'est sûr que je peux le faire. Et si ça correspond avec la ligne éditoriale de la collection, bah, potentiellement, on peut le publier. Mmh. Et au-delà de ça, j'ai tous mes élèves de ma formation d'infoprenariat, donc blogueur pro, qui sont souvent les leaders de leur secteur, tu vois, ouais, vraiment, qui ont atteint une position impressionnante dans leur secteur, et pour qui, en fait, publier un livre papier, ouais, au bout d'un moment, c'est juste logique, quoi.
C'est pas logique.
Ouais, je veux dire, quand tu es déjà un infopreneur à succès, que tu as une grosse audience, que tu as fait des gros lancements, que tu as fait des événements et tout, au bout d'un moment, c'est logique d'avoir un livre papier dans ton, ouais, dans ton arsenal,
bien sûr,
dans tes outils. Et donc là, bah, je pourrais faire le pont. En plus, tu vois, donc, je me suis dit, c'est parfait en fait comme rôle, tu vois. Ça va me permettre de rajouter de la valeur ajoutée à mes élèves et aussi potentiellement à une future formation. Et du coup, bah, j'ai dit ok, j'ai négocié des meilleures conditions pour eux, pour les gens qui vont passer par moi que s'ils passaient en direct. Et là, le tout premier livre qu'on va publier, ça va être celui de Sébastien, le marketeur français, qui pour la première fois ne va pas auto-éditer un livre, mais le faire publier par un vrai,
d'accord,
éditeur.
Ouais. Ah, c'est big news.
Donc voilà, oui, effectivement, c'est intéressant. Là, l'Asus, il y a quelques jours, il est venu ici à Paris pour tourner des vidéos avec Barbara. Donc il a montré la signature du contrat et tout. Ce qui est un des trucs que je recommande, c'est vraiment d'impliquer sa communauté le plus vite possible. Dès vous avez le projet, vous signez le truc, vous montrez en vidéo et vous impliquez votre communauté le plus vite possible. Donc ouais, ça va être aussi un challenge intéressant. Honnêtement, ça va pas me faire gagner beaucoup d'argent. Je vais toucher un petit peu de droit d'auteur là-dessus, mais pas grand-chose. Mais je trouve ça fun, ça va pas me demander beaucoup de travail et ça permet d'apporter davantage de valeur ajoutée à mes élèves et au monde. Donc pourquoi pas, tu vois.
Okay, ça va être fun. Ouais, donc ouais. Tu continues à développer la partie édition.
Bon, j'aime bien ça, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu comme toi, l'immobilier, c'est un peu un hobby, tu vois. C'est un peu la même chose pour moi et en plus bah, ça me fait gagner de l'argent et ça apporte de la valeur, donc franchement ça mange pas de pain, quoi.
Cool. Et quoi d'autre alors dans tes projets
actualité? Bon, à part ça, là, je suis un peu en mode couteau entre les dents en ce moment parce que j'ai vu que j'ai des collègues qui ont commencé à faire des chiffres peut-être deux fois plus gros que moi, et donc je me suis dit tiens, c'est marrant.
Ça y est,
ce qui est bien aussi, c'est qu'on est dans un milieu avec une très bonne compétition amicale. Tu vois, on parlait avec quelqu'un qui était à l'extérieur de ce milieu là, tout à l'heure, mais cette personne disait c'est quand même rare de voir des industries où vous avez les concurrents qui sont potes s'échangent tout, quoi. Parce que nous, on se voit comme des confrères avant d'être des concurrents, on s'aide les uns les autres, et ça, c'est une des grandes forces du monde de l'infoprenariat, c'est assez impressionnant.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, aussi, comme on connaît les chiffres les uns des autres, ça crée une sorte d'émulation, de compétition. Moi, ça fait plusieurs mois que je suis en mode extrêmement tranquille, relax, à me balader partout dans le monde et tout. Je me dis, tiens, peut-être que je vais me mettre dans un cycle, peut-être ça va être de quelques mois, peut-être d'un an, peut-être moins, peut-être plus, où je vais me remettre à vraiment bosser, tu vois, genre comme si je créais une nouvelle boîte, tu vois, avec comme objectif de, tu vois, les Américains, ils aiment bien parler de 10x, tu vois, multiplié par 10. Je pense, alors à 10, ça paraît énorme, mais peut-être multiplié par 5 mon chiffre d'affaires et divisé par 2 mon temps de travail, en mettant en place les bons process et tout ça. Là, récemment, dans mon entreprise, il y a eu une grosse transformation parce que j'ai pris une personne clé qui me manquait jusqu'à présent, une executive assistant. Je l'appelle mon assistant Iron Man, comme dans le film, parce que en fait, elle sait gérer à la fois le perso et le pro. Tu vois, dans Iron Man, si vous avez vu le film, vous savez de qui je parle. L'assistante d'Iron Man, elle sait où sont ses chaussettes et elle sait gérer son empire, quoi. Grosso modo, elle sait vraiment tout faire. C'est la femme, le bras droit qui connaît toute ta vie et d'accord. Tout ça.
Oui, donc il n'y a plus de frontières. C'est l'assistante business et machin. Elle fait tout.
Après, il y a quand même tu ne vas pas lui confier des trucs trop triviaux parce que ce serait une mauvaise utilisation de ses talents, tu vois. Mais il y a cette notion-là qu'elle te connaît vraiment extrêmement bien. C'est ton bras droit, quoi. Et du coup, là, elle a pris en charge beaucoup de choses dans ma boîte que je gérais encore. Et là, par exemple, quand je veux un nouveau profil dans mon équipe, c'est génial parce qu'avant, je m'embêtais à faire la description, à poster des trucs sur Upwork, à parler aux candidats, etc. etc. Et puis, aujourd'hui, je dis juste à Elisabeth, j'aimerais avoir ce profil, est-ce que tu peux le recruter pour moi sur Upwork ? et elle s'en occupe. Et ça,
oui, ça fait bien, hein.
C'est un gain de temps phénoménal.
Je suis d'accord, c'est génial.
Même si quand même des fois, bon bah voilà, elle te, par exemple, là je lui ai demandé de trouver quelqu'un pour optimiser le SEO de mes sites. Alors, on a quand même dû faire une session ensemble. J'ai dû lui expliquer ce que j'attendais parce que c'était pas. J'ai dû lui faire lire des articles et tout ça. Et après j'ai dû quand même intervenir. Elle a trouvé la personne, après j'ai dû intervenir dans le management parce qu'elle avait du mal à juger de la qualité du travail. Donc, c'est pas non plus une baguette magique, mais ça fait beaucoup gagner beaucoup de temps et c'est clair que ça, rien que ça, ça m'aide énormément. Donc je vais utiliser Elisabeth pour prendre d'autres personnes dans mon équipe et puis déléguer tout ça.
Ah oui, parce que donc jusqu'à récemment, tu n'avais pas de bras droit, enfin de personne un peu centrale.
Non, effectivement. Ah, oui. Après, donc j'avais quand même moi toute mon entreprise est asynchrone, hein, oui. Donc il n'y a pas de réunion, d'appel téléphonique ou quoi que ce soit. Tout se fait par surtout Asana, c'est le logiciel principal d'échange. Et donc voilà, il y avait. Mais donc, le principal frein, c'est que du coup, ça m'embêtait de recruter une nouvelle personne parce que je savais que c'est moi qui devais m'en occuper et tout ça. Oui. Mais finalement, tout ce qui est administratif, support, technique et tout ça, ça fait longtemps que j'ai délégué toutes ces tâches-là. Donc là j'ai pris quelqu'un qui a les compétences managériales de recrutement et même de gestion financière, même si je n'ai pas encore utilisé ces talents-là à Elisabeth. Donc voilà.
Ok, donc bien. Structuration.
Oui, puis en plus, elle est aussi très très bonne pour organiser les événements. Elle a organisé les concerts et les pièces de théâtre de stars françaises parce qu'elle vit à Londres, qui viennent à Londres. Parce que j'ai appris qu'en fait, il y a beaucoup de stars françaises de la chanson, du théâtre et autres qui terminent leur tournée française par Londres parce que c'est juste à côté, parce qu'il y a quand même 350 000 Français, donc ça fait une vraie ville française en fait, et que c'est assez facile de remplir une salle de Français. Ou en tout cas de francophone avec une star française qui vient à Londres sans problème. Donc elle s'occupait de ce genre de truc, tu vois, par exemple. Donc elle a vraiment l'habitude. Là j'ai fait pour la toute première fois un événement public, ouvert au public. Ouais.
Tu te mets à faire des événements publics.
Purée, c'est dingue, hein. Parce que jusque-là, je faisais toutes les ans qu'une rencontre avec mes élèves. Parce que pour moi, je pensais pas que ça allait. C'était cohérent avec mon style de vie 20-80, tu vois. Que je pensais que ça allait prendre trop de temps et d'énergie. Là, je me suis dit, pour la première fois, on va tester de faire un jour en plus de ma rencontre avec mes élèves, mais voilà, où les gens peuvent payer et venir. Et en fait, j'ai quasiment rien eu à faire. C'est mon équipe qui s'occupait de tout, tu vois. Donc, pareil, je pense que gros projet aussi pour 2019, faire un véritable événement de 2 jours et viser au moins 1000 personnes. D'accord. Là, il faut savoir que j'ai prévenu les gens 3 semaines à l'avance. Donc, c'est n'importe quoi, je veux dire.
C'est court, hein.
Clairement, il faut, dans l'industrie, les gens sont prévenus 6 mois à l'avance, voire même un an. Donc, 3 semaines, c'est ultra, ultra court. J'ai quand même eu 240 personnes qui sont venues. Donc, c'est très encourageant. Et je me dis que.
Oui, en plus, c'était à Bruxelles.
C'était à Bruxelles.
En plus, c'était à Bruxelles. Ouais.
C'était pas l'endroit le plus accessible.
Ouais.
Et du coup, je me dis vraiment, là, si je mets les moyens et je préviens les gens à l'avance, il y a moyen que j'ai 1000 personnes pour l'année prochaine.
Ouais, c'est un beau challenge, ouais.
Ouais.
Cool, ouais. J'étais surpris, moi, tu sais, j'organise un séminaire immobilier à Angers.
Ouais.
Donc j'ai décidé d'en faire un avant de partir, histoire de dire, là, ça boucle.
Parce
la
que
boucle.
C'est là que tu vis, hein.
Parce que c'est là que je vis aujourd'hui. Et en une semaine, en fait, il était complet. Hein. Alors,
il y avait combien de personnes?
La salle n'est pas grande parce que dans le 4 étoiles, je voulais faire ça dans un beau cadre.
Ouais.
Et il y a un 4 étoiles dans le centre qui était disponible à cette date. Et la salle, elle fait 90 places.
Oui, c'est petit, effectivement.
Mais en une semaine, c'était fini, quoi.
Ouais.
Donc, j'ai même pas eu le temps d'augmenter le prix de vente.
Donc, la prochaine fois, tu mets le prix plus haut direct, quoi. C'était combien, mais la place?
C'était 247 euros la place.
Ah, quand même, c'était pas donné, quoi.
Non, c'est pas donné.
C'est déjà un bel investissement. C'est pour une journée, c'est ça.
C'est une journée, donc voilà. Après, ça va être une belle journée qui va être dense en contenu. Il y a mon avocat qui va venir faire une présentation sur les holdings. J'ai un spécialiste de la SCI qui va venir. Enfin, voilà, il va y avoir du contenu dense qu'on trouve pas ailleurs. Mais j'ai été surpris quand même, tu vois, qu'en une semaine, l'événement était complet, quoi. Donc, ça me renvoie sur le truc que j'ai le sentiment qu'à Paris, il y a une telle offre abondante. C'est un peu comme pour les salles de théâtre. Tu prends, si tu regardes le nombre de pièces de théâtre qu'il y a un soir donné à Paris, il y en a genre 200 ou 300.
Ouais, c'est
et
c'est
pour les événements, les séminaires, j'ai l'impression que on commence à aller sur un truc comme ça. Il y a tellement d'événements à Paris que dès que tu organises un truc qui n'est pas à Paris, ça se remplit très vite, quoi. Donc voilà. Réflexion du jour. Alors, j'ai pas du tout me mettre à faire une tournée en France, hein, je vous rassure. J'ai pas envie d'être itinérant et de faire toutes les villes de France, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a une réelle attente aussi de contenu de qualité ailleurs qu'à Paris, quoi.
Ouais, non, c'est clair.
Ouais.
Ouais. Donc toi, le plus gros événement que tu as organisé toi-même, c'était avec combien de personnes?
300 personnes.
300 personnes, ouais. Mais t'avais prévenu à l'avance, t'avais...
Non, alors moi je suis pas très bon encore là-dessus. À l'avance, moi c'est plutôt le plus tôt que j'ai prévenu, ça doit être 3 mois avant.
Ouais, mais t'es comme moi, toi, t'aimes pas prévenir, prévoir les trucs en avance.
Non,
mais moi, je suis comme toi.
Après 2019, pareil, je me suis mis un challenge de faire quelque chose de plus gros. Mais il faudra prévenir plus à l'avance et organiser un peu mieux les choses.
Ouais.
Moi, je fais, tu vois, le séminaire à Angers, j'ai dû faire un mail ou deux et j'en ai dû en parler sur une vidéo YouTube ou quoi, et puis c'était fini, quoi.
Ouais.
J'ai pas déployé une énergie folle pour le remplir, quoi.
Ouais.
Et je pense aussi qu'il y a un potentiel beaucoup plus important en termes de nombre de participants, quoi. Donc, ouais, non, je suis pas encore là-dessus. Ça n'a pas été ma priorité de faire des événements live. J'ai commencé que cette année, je crois, à faire un séminaire immobilier. Ou peut-être fin d'année dernière, de mémoire. Donc c'est très récent, les séminaires immobiliers. Pour moi, c'était pas une priorité non plus d'être rajouter ça. Parce que je suis toujours, enfin, je pense que là-dessus, on se ressemble pas mal. Hein. Je suis toujours sur le travail que ça demande et est-ce que ça me permet de garder un style de vie quand même bien. Parce que moi, je suis pas dans développer le plus gros business possible.
Ouais.
Je regarde toujours à quel coût. Quel est le coût de faire ça en termes d'énergie et de ce que je ne peux pas faire à la place aussi.
Ouais.
Je suis beaucoup là-dedans, donc c'est pour ça que non plus je ne vais pas sur me dire je vais faire le plus gros possible. Quoi. C'est pas un truc qui m'excite de dire je vais faire le plus gros possible. Donc voilà, on joue avec ça aussi. Mais l'année prochaine, ouais, en tout cas, recentrer et puis faire mieux. Puis de manière générale, je trouve que c'est un objectif sain de dire faire mieux que ce que j'ai fait avant.
Ouais.
Ouais, ça, c'est un truc qui. C'est la meilleure manière de progresser, je trouve.
Non, on est d'accord, hein, c'est clair.
Voilà.
Est-ce que tu aimerais terminer par quelque chose, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est à bientôt, mais on ne sait pas quand.
Exactement, alors là, complètement aléatoire, vous avez compris, tire-toi une bûche, on parle de tout, de rien. On est dans des endroits aléatoires aussi, là on est dans un superbe hôtel à Paris, on peut peut-être même partager le nom, allez, soyons fous.
Ouais, c'est le Mandarin Oriental.
Ouais, et c'est vraiment vraiment beau, très beau cadre.
Ouais, super endroit.
Alors c'est pas donné, on va pas se mentir, mais vous pouvez venir ici, prendre un petit café et travailler, et c'est vraiment un super endroit reposant et tout ça. Là on a le chant des oiseaux, bon là il y a des gens un petit peu bruyants à côté de nous, pas de bol. Mais de manière générale, c'est quand même beaucoup plus serein et calme.
C'est calme, ça permet de se détendre, changer d'atmosphère, d'endroit, donc c'est super. Et en fait, on peut trouver de toute façon ce genre d'endroit partout dans le monde. Hein.
Ouais, bah donc là, le serveur nous expliquait qu'il a ouvert le Mandarin Oriental. Enfin, il y a eu des Mandarins Orientaux ouverts dans tout le monde.
Ouais, il disait qu'il y en avait une trentaine, et ils en ouvraient combien? Trois?
Deux, trois par an, il a dit.
Deux, trois par an, ouais, donc voilà.
Donc peut-être bientôt à côté de chez vous.
Merci en tout cas, et puis donc à une prochaine, et puis on sait pas quand. Hein.
Bah ouais, donc à peut-être dans 10 ans, à peut-être dans 3 ans, à peut-être jamais, à peut-être dans une réalité parallèle, on verra bien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les rebelles intelligents. Ciao, ciao.
Salut.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.